Bonjour à toutes et à tous. C'est avec joie que je vous retrouve après 2 semaines de vacances. Alors les vacances ont été bonnes, pas toujours reposantes, mais ça vous le savez aussi. Mais elles étaient suffisamment bonnes pour en garder en tout cas un bon souvenir et nous remercions, Damaris et moi, le Seigneur qui nous a accordé dans sa grâce de tels bienfaits. Et je veux profiter de ce moment de prédication pour lire d'abord la parole de Dieu. Nous poursuivons effectivement notre série sur l'Ecclésiaste et nous lisons le chapitre 4. Voici ce que le Qohélète dit. « J'ai encore considéré toutes les oppressions qui se pratiquent sous le soleil. Les opprimés versent des larmes et il n'y a personne pour les consoler. La force est du côté de leurs oppresseurs sans qu'il y ait quelqu'un pour les consoler. » Alors j'ai trouvé que les défunts, eux qui sont morts, ont un avantage sur les vivants, sur ceux qui sont encore en vie. Et s'en trouve mieux que les uns et les autres, celui qui n'est pas encore venu à l'existence, parce qu'il n'a pas vu tout le mal qui se commet sous le soleil. J'ai aussi constaté que tout labeur et que toute habileté que les hommes mettent à leurs œuvres sont motivés par la rivalité des uns envers les autres. Cela aussi est dérisoire. Autant courir après le vent. Celui qui se croise les bras est un insensé et il se détruit lui-même. Il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de labeur que de courir ainsi après le vent. J'ai encore constaté une autre chose dérisoire sous le soleil. Voilà un homme seul qui n'a personne avec lui, ni fils ni frère, et pourtant il travaille dur sans jamais s'arrêter. Jamais ses yeux ne se rassasient de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille si dur? Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses? Se dit-il. Cela aussi est dérisoire. C'est une bien mauvaise affaire. Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son labeur. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire. Mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde faite de 3 cordelettes tressées n'est pas vite rompue. Mieux vaut un jeune homme pauvre mais sage qu'un roi âgé et insensé qui ne sait plus écouter les conseils. Mais que le jeune successeur soit sorti de prison pour accéder au trône, ou encore qu'il soit né pauvre dans le royaume, j'ai constaté que tous les humains qui vivent sous le soleil se rallient à lui lorsqu'il prend la place du roi. Il n'y a pas de fin au cortège de tout ce peuple, de tous ces gens dont il a pris la tête. Et pourtant, la génération suivante ne se félicitera pas davantage d'avoir un tel roi. Cela encore est dérisoire. Autant courir après le vent. Je veux profiter aussi de ce moment pour récapituler un petit peu tout ce que nous avons vu jusque-là, des chapitres 1 à 3. D'abord, de pouvoir resituer où nous en sommes dans ce livre de l'Ecclésiaste. Bien sûr, nous sommes donc au début de ce livre. Et dans cette première partie, vous voyez notamment ce qui est intitulé « Grande description de la réalité », nous sommes dans cette partie-là, où le Qohélète, ou l'Ecclésiaste, eh bien, nous présente la réalité telle qu'elle est. Présenter cette réalité à partir de tout ce qui se passe sous le soleil. En fait, le Qohélète nous exprime le constat qu'il fait en observant tout ce qui se fait sous le soleil. Pour lui, il est clair que tout sous le soleil est marqué par la vanité, par le côté dérisoire, par la fragilité, par la frustration, par la déception. Il est impossible à l'homme d'échapper à sa condition humaine qui est ainsi depuis la chute, depuis la désobéissance d'Adam et d'Ève. Et le Qohélète, qui est un homme d'expérience, s'est aventuré du côté de la sagesse. Il a aussi testé la folie, notamment en expérimentant l'ivresse. Le Qohélète est un homme qui a aussi réalisé d'importants travaux en se constituant une sorte de jardin d'Éden. Et même après avoir accompli tout cela, il en vient à dire que tout est vanité. D'ailleurs, à quoi bon travailler avec tant de peine si celui qui vient après détruit ce que l'on a bâti ? Voilà encore ce qui cause de la frustration dans la vie. Mais le Qohélet rappelle aussi qu'au milieu de la condition misérable de l'homme, il y a du bon. Il y a de la joie dans le fait que on est bien travaillé, par exemple. De la joie que l'on retire de son travail bien fait, du travail fructueux qui porte du fruit. Il y a le simple plaisir de manger, de boire, de prendre du bon temps. Et cela, dit le Qohélet, c'est un don de Dieu. Il y a 2 semaines, vous avez vu avec Nathan Kimby que l'homme ne maîtrise pas les circonstances de sa vie. Sa vie qui aura un terme sur cette terre. Seul Dieu maîtrise son œuvre. Seul Dieu maîtrise ce qu'il est en train de faire. Et c'est pourquoi il faut le craindre, lui. Et en observant notre texte du chapitre 4, eh bien, nous pouvons remarquer une structure qui n'est pas tout à fait homogène, mais qui indique quand même comment le Qohélet formule ses observations. Vous remarquez, par exemple, la répétition du verbe constater, ou son équivalent. Et puis également, la répétition de l'expression il vaut mieux, ou mieux vaut quelque chose. Autrement dit, au milieu de tout ce qui est dérisoire, et puisque sur Terre tout est dérisoire, eh bien, il faut envisager que certaines situations soient préférables à d'autres. Ou soient présentées comme préférables à d'autres. Et nous allons distinguer, à partir de notre texte, 4 situations préférables à une autre situation. Premièrement, il vaut mieux ne plus ou ne pas être que de voir le mal sur Terre. Je relis le verset 1. J'ai encore considéré toutes les oppressions qui se pratiquent sous le soleil. Les opprimés versent des larmes et il n'y a personne pour les consoler. La force est du côté de leurs oppresseurs sans qu'il y ait quelqu'un pour les consoler. Déjà au chapitre 3, le Qohélet avait relevé que la justice n'était pas toujours rendue ici-bas. À la place, on y trouve la méchanceté. Et c'est un fait observable et malheureux. L'injustice marque les relations humaines. Et l'observation du maître ne nous étonne donc pas. En fait, ce qui est dramatique, c'est que sa description, que nous lisons simplement au verset 1, sa description trouve encore des échos dans notre monde actuel. Des opprimés qui souffrent, sans que personne ne leur vienne en aide. Des oppresseurs que personne n'arrête. Oui, ce sont des situations qui sont toujours en cours. Et malgré l'accès que nous avons à une information en continu, nous ne savons pas tout ce qui se passe ici-bas. Dieu sait combien d'oppression s'exerce ici ou là, sans que les médias n'en parlent. Que certains brutalisent d'autres par la force, par la violence, par un traitement qui n'est pas équitable ou par la tyrannie, cela doit nous révolter. Cela doit nous révolter. Lorsque nous entendons parler de peuples opprimés, comment réagissons-nous ? Est-ce qu'à force d'entendre ce genre de nouvelles, nous avons fini par ne plus y prêter attention ? Avons-nous banalisé ce qui est de l'ordre de l'injustice ? Le Qohélet, qui a connaissance des oppressions qui avaient lieu de son temps, réagit fortement. Et regardez ce qu'il dit au verset 2 et 3. Alors j'ai trouvé que les défunts, eux qui sont morts, ont un avantage sur les vivants, sur ceux qui sont encore en vie. Et s'en trouve mieux que les uns et les autres, celui qui n'est pas encore venu à l'existence, parce qu'il n'a pas vu tout le mal qui se commet sous le soleil. Loin de banaliser ces injustices, le Qohélet montre qu'il vaut mieux ne plus être du monde des vivants, ou ne pas être encore, que de voir tout le mal qui se fait sous le soleil. Sans doute qu'il se place du côté des opprimés. Oui, effectivement, ceux qui sont décédés ne voient plus cette injustice commise. Ils ne la subissent plus. Là où ils sont, il n'y a plus personne pour les opprimer. Ils ont un avantage dans cette situation sur les vivants qui, eux, doivent encore souffrir. Et le Qohélète va jusqu'à mentionner le cas de celui qui n'est pas encore né, ou celui qui n'existe pas encore. Il est encore plus heureux, parce qu'il ne voit pas tout le mal qui se fait sur terre. Rendez-vous compte de ce qui est dit ici. La situation de celui qui n'est pas encore né, ou celui qui n'est pas encore venu à l'existence, est plus enviable que celle des vivants. Et dans sa souffrance, vous connaissez sans doute l'histoire de Job. Dans sa souffrance, Job avait également tenu des propos semblables. Lui qui souffrait intensément dans son corps, mais aussi à cause de tout ce qu'il avait perdu, aurait préféré ne pas voir le jour pour ne pas avoir à subir ce qu'il vivait. La souffrance est telle qu'on peut souhaiter ne jamais vouloir être né. Mes amis, si le Qohélète s'exprime ainsi, c'est bien pour montrer combien l'oppression est un mal profond, qui n'est pas à banaliser. C'est un mal profond qui a altéré les relations entre les êtres humains. Et le Qohélète montre que dans ces conditions, la mort est préférable à la vie. Plutôt que de souffrir sous l'oppression, il vaut mieux ne pas être. Alors ce n'est pas que le Qohélète incite à mettre fin à ses jours, mais il compare ces situations et il constate que la mort vaut mieux que la vie si cela permet de ne pas souffrir. C'est dire combien la vie, dans ces conditions d'oppression, est éloignée de ce qu'elle devrait être, de ce que Dieu avait comme projet pour l'homme et la femme. Et ça, ça doit nous révolter. Nous devons prendre toute la mesure de ce que dit ici le Qohélète. Et Sylvain Romerowski qualifie très justement l'oppression de scandale. L'oppression est un scandale. Dieu n'a pas créé les hommes pour que les uns oppriment les autres ou usent de force pour dominer les autres. Le péché a tout gâché. Les hommes ont aussi tout gâché. Et nous devrions toujours être scandalisés devant l'injustice sociale, devant l'oppression des peuples. Certains entreprennent de lutter contre ces injustices, et c'est heureux si nous pouvons le faire. Mais force est de constater qu'il y en aura encore. Force est de constater que notre seule espérance est que Dieu établisse sa justice et qu'il mette fin à toute oppression dans le monde à venir. Dieu y parviendra au jour qu'il a fixé. Mais en ce qui nous concerne, reconnaissons que nos actions pour lutter contre les injustices demeurent bien limitées. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas le faire, mais reconnaissons que nous sommes bien limités. Et s'il vaut mieux ne pas exister que de voir le mal qui se fait sous le soleil, cela nous montre bien à quel point nous devons être scandalisés lorsque l'homme se comporte en loup pour l'homme. Que nous puissions voir le mal pour ce qu'il est, sans le banaliser. Au milieu de ce qui est dérisoire, il faut envisager que certaines situations soient préférables à d'autres. Voyons la deuxième situation. Il vaut mieux se reposer que de trop travailler. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette maxime. Il vaut mieux se reposer que de trop travailler. Toujours en considérant les relations entre les hommes, le Qohélète évoque de nouveau le thème du travail. Il en a déjà parlé avant, il en parle, mais sous une autre forme. Et vous comprenez que le travail, c'est un thème qui est récurrent dans le livre de l'Ecclésiaste. Parce que, je pense, c'est parce que le travail occupe une grande partie de notre vie. Relisons son constat au verset 4. « J'ai aussi constaté que tout labeur et que toute habileté que les hommes mettent à leurs œuvres sont motivés par la rivalité des uns envers les autres. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. » Qu'est-ce qui est dérisoire dans ce que nous venons de lire ? Nous connaissons tous le principe de la concurrence, mais voilà ce qui est dérisoire, que le travail soit motivé par la rivalité, par la jalousie, par le désir de faire mieux que l'autre, au point peut-être de se dire que tous les coups sont permis et de vouloir écraser l'autre pour faire mieux que lui. Et une telle motivation n'est pas décrite comme saine. Travailler parce que nous sommes motivés par la jalousie. Oui, nous devons bien travailler, Et si nous en avons les capacités, nous devons le faire avec habileté, avec compétence, avec qualité. D'autres diraient avec excellence. Oui, nous devons aller dans ce sens-là. Mais qu'en aucun cas la rivalité soit notre moteur. Voilà un autre dérèglement dans les rapports humains. La comparaison nous pousse parfois à un travail acharné dans le but d'être meilleur que l'autre. Et combien les grandes entreprises se prêtent à ce jeu et finissent par épuiser leurs employés. Au verset 5, le Qohélète évoque le cas du paresseux, de celui qui rechigne à travailler, celui qui se croise les bras. Et nous avons la même sagesse dans le livre des Proverbes. Le paresseux est décrit comme un insensé. Je vous lis simplement un extrait de ce que nous lisons dans le livre des Proverbes au chapitre 24, les versets 30 à 34. D'ailleurs, formulé à peu près comme le Qohélète. J'ai passé près du champ d'un paresseux et le long du vignoble d'un homme sans courage. Et voici que les orties avaient tout envahi. Les ronces recouvraient le sol et le muret de pierre était en ruine. En voyant cela, je me suis mis à réfléchir et j'ai tiré une leçon de ce que j'ai observé. Je vais juste faire un petit somme, dis-tu. Juste un peu m'assoupir. Juste qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Vous entendez le discours du paresseux qui se dit « Je vais juste me reposer un petit peu !» Mais pendant ce temps-là, la pauvreté s'introduit chez toi. L'homme qui se croise les bras finit par se faire du tort à lui-même. Et pour l'époque, eh bien, celui qui ne laboure pas son champ, celui qui ne sème rien, ne peut pas s'attendre à récolter quoi que ce soit. Et de toute évidence, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il ne travaille pas. Pour le dire autrement, celui qui refuse de travailler, celui qui se trouve des excuses pour ne pas mettre la main à la pâte, va à l'encontre de l'intention du Créateur. Le travail est bon aux yeux de Dieu. C'est lui qui l'a voulu pour l'être humain. Mais gare à l'excès. D'où le verset 6 de notre texte. Il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de labeur que de courir ainsi après le vent. Si le travail a sa place dans les activités humaines, le repos, à ne pas confondre avec la paresse, est aussi une disposition que Dieu a voulu pour l'homme. Notez ce que le Qohélète considère comme préférable. Une main pleine de repos, c'est mieux que deux mains remplies de labeur qui équivalent à courir après le vent. Trop travailler, c'est dérisoire. C'est futile. C'est prendre le risque de devenir esclave de son travail. Avoir deux mains pleines de labeur, c'est ne plus se laisser le temps de souffler. Or, nous avons besoin d'une main pleine de repos. Notre corps, notre être intérieur en ont besoin. Et Dieu, le Créateur aux ressources illimitées, nous en donne l'exemple. Si je relis Genèse chapitre 2, versets 2 à 3, nous lisons ceci. Le septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le septième jour, il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Écoutons l'enseignement du Qohélète et sachons arrêter notre activité avant qu'elle nous arrête, avant qu'elle nous mette dans un état d'épuisement. Et une chose est sûre, la société où nous sommes ne nous poussera jamais dans le sens de nous arrêter, de nous reposer. La tendance est plutôt au surmenage, à la suractivité. Et je ne parle pas simplement d'un travail professionnel. Ça peut être tout ce qu'on fait aussi à la maison. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Qu'il se trouve dans notre vie une main pleine de repos et une main pleine de labeur. Et comme le dit Sylvain Romerowski, une seule poignée de travail, c'est-à-dire une seule mesure, une mesure normale, suffit. Vous n'avez pas besoin de deux mains pleines de travail. Une seule suffit. Nous n'avons que deux mains. Et nous ne sommes pas faits pour en avoir trois. Une pour le repos, une pour le labeur, le travail. Et ce matin, tu as peut-être besoin d'entendre l'appel du Seigneur, qui dit en Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai quoi ? Du repos. » Nous comprenons alors que le vrai repos n'existe pas en dehors du Seigneur. C'est auprès de lui que nous recevons une main pleine de repos. Est-ce que cette perspective que je viens de décrire, qui en fait vient de notre texte, est-ce que cette perspective d'une main pleine de repos et une main pleine de labeur change ta manière de vivre tes jours de repos dans la semaine ? Est-ce que ça change ta manière de voir le repos, qui est si nécessaire, au lieu de se surcharger en ayant deux mains pleines de labeur ? Le livre de l'Ecclésiaste est un texte de sagesse. Et je pense que c'est le bon moment ce matin pour s'arrêter et écouter cette sagesse. Au milieu de ce qui est dérisoire, il faut envisager que certaines situations soient préférables à d'autres. Eh bien, regardons la troisième situation qui est évoquée. Il vaut mieux être à plusieurs que seul. Il vaut mieux être à plusieurs que seul. Est-ce que vous connaissez la devise nationale de la Belgique ? L'union fait la force. Alors j'ai appris aussi entre-temps que c'était la devise de plusieurs autres pays, comme Haïti, ou l'Angola, ou la Bolivie. À plusieurs, l'union fait la force. À plusieurs, on est plus fort. On peut réaliser de plus grandes choses, oui. Face à l'adversité, l'union fait la force. Oui, c'est vrai. Et c'est ce que dit le Coëlette. Et avant d'en venir aux exemples qui prouvent qu'être à deux ou à plusieurs est préférable au fait d'être seul, eh bien le Coëlette envisage au verset 8 le cas d'un homme seul. Regardez le verset 8. Cet homme seul, qui est sans famille, sans descendant. Cet homme qui travaille seul, qui travaille dur. Cet homme qui travaille pour lui, en fait. Cet homme qui travaille et qui se dit, ben, il se prive de bien de bonnes choses. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs des gens qui travaillent tellement qu'ils n'ont pas le temps de profiter des bonnes choses de la vie ? Ce qui est dérisoire, c'est qu'un tel homme aura travaillé dur toute sa vie sans pouvoir vraiment profiter de ses richesses ou sans en faire profiter d'autres. Il est dérisoire d'amasser autant de richesses sans que cela serve au moins à un héritier. Et comme le commente le Coëlette, à la fin du verset 8, c'est une bien mauvaise affaire. Nous dirions aussi, c'est un bien mauvais calcul. Et cela rappelle la parabole que Jésus raconte en Luc chapitre 12, versets 15 à 21. Écoutons-la encore, cette parabole. Puis il dit à tous, gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. « Que faire ? » se demandait-il. « Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. »« Ah !» se dit-il enfin. « Je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. » Après quoi, je pourrais me dire « Mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. » « Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie !» Mais Dieu lui dit, « Pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter ?» Et Jésus termine, « Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Il y a aussi de la sagesse dans les paraboles de Jésus. Comme le dit Jésus, il y a une folie à amasser des richesses pour soi-même. C'est pourquoi l'Ecclésiaste énonce une préférence. Mieux vaut être à deux que tout seul. Et il le dit dans le contexte du travail. Il le dit dans le contexte de la collaboration entre deux personnes qui travaillent ensemble. Et c'est ce que nous voyons dans la suite du verset. Alors, verset 9. On tire alors, si on travaille à deux, on tire alors un bon profit de son labeur. Combien de fois j'ai pu constater que le travail collectif, le travail d'équipe était bénéfique, plus efficace. Alors peut-être pas toujours, mais souvent. Et par le travail d'équipe, le résultat est meilleur. Chacun y mettant du sien, chacun employant ses compétences propres. Et j'ai pu aussi l'expérimenter en tant que professeur. Donner aux élèves un travail à faire ensemble conduit à échanger ses idées, à aller plus loin dans sa réflexion, à avoir de meilleures idées que si on travaillait seul. Oui, le travail collectif a quelque chose de bénéfique. Et pour illustrer ce principe que mieux vaut être à deux que tout seul, eh bien le Qohélète donne, dans les versets qui suivent, des exemples que je n'ai même pas besoin de commenter. Parce que c'est tellement évident. À deux, on peut se soutenir. Si l'un tombe, l'autre peut le relever. À deux, on se tient chaud. Quand on est tout seul, c'est un peu plus difficile. Bon, peut-être de nos jours, c'est un peu différent, mais vous comprenez l'idée. À deux, on peut faire face à un adversaire plutôt que tout seul. Et vous notez bien que ce qui est dit de celui qui est seul au verset 10. Malheur. Malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. Celui qui est seul, celui qui travaille seul, est en bien mauvaise posture. Et le Qohélète dit malheur à lui. Cela nous fait réfléchir, de nous dire que peut-être nous devons apprendre à travailler avec les autres. Je dirai un mot de la fin du verset 12, tant il a été cité dans les mariages. Une corde faite de trois cordelettes tressées n'est pas vite rompue. Et plus d'une fois, j'ai entendu que ce verset était employé pour évoquer le secret d'un mariage réussi. Telle une corde avec trois cordelettes, le couple doit s'associer avec Dieu pour que leur mariage dure, pour que leur mariage réussisse ou ne soit pas rompu. Et c'est vrai que la métaphore est séduisante. Mais si nous regardons au contexte du verset, nous ne voyons même pas Dieu mentionné dans notre texte. Et en plus, à part l'idée des deux personnes qui dorment ensemble, nous n'avons nulle part ailleurs le thème du mariage ici. D'après les spécialistes, cette expression utilisée était proverbiale dans le Proche-Orient ancien. C'était l'équivalent de la devise belge, l'union fait la force. Une corde qui est tressée avec trois cordelettes est plus forte, oui, l'union fait la force. Voilà ce qu'il faut comprendre de cette image. Nous avons par cette image une forte incitation à ne pas rester seul, à ne pas travailler seul. À plusieurs, nous pouvons répartir la charge du travail, de telle sorte que les uns et les autres ne s'épuisent pas. Et je ne parle pas simplement dans le domaine professionnel. Je veux aussi souligner ce qui se passe à la maison. À plusieurs, on s'épuise moins qu'une seule personne qui fait toutes les tâches ménagères, par exemple. Privilégions le travail d'équipe. C'est en tout cas la sagesse que nous tirons de ces quelques versets. Et j'aimerais souligner quand même par rapport au projet du Créateur, qu'il a quand même dit en Genèse chapitre 2, verset 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et il a dit cela avant la création de la femme. Parce que l'homme a été créé à l'image du Dieu relationnel, il y a en lui ce besoin relationnel. Alors d'abord avec Dieu, mais aussi avec ses semblables. La solitude à long terme, ce n'est pas bon, dit notre Dieu. Repensez à cet homme qui travaille dur mais qui est tout seul. Par Christ, qui a réglé notre dette par sa mort à la croix, nous retrouvons une relation restaurée avec Dieu. Et nous retrouvons une relation restaurée avec les autres aussi. Par l'Église, Dieu répond à notre besoin relationnel. Dans l'Église, nous pouvons vivre des relations harmonieuses comme nulle part ailleurs. Et nous sommes bien loin de la pensée individualiste qui caractérise encore notre siècle. Entendons encore le propos du Qohélète qui dit « Malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. Malheur à celui qui veut juste se débrouiller tout seul, sans les autres. » Que cela puisse nous amener à réfléchir aussi. Chacun à son échelle. Jusque-là, nous avons considéré que le Qohélète envisageait plusieurs situations préférables à d'autres. Il vaut mieux ne pas être que de voir le mal qui est commis sur terre. Il vaut mieux se reposer que de trop travailler. Il vaut mieux être à plusieurs que seul. Et regardons à présent la dernière situation. Il vaut mieux avoir un dirigeant sage qu'un dirigeant insensé. Oui, le Qohélète parle de politique aussi. Et d'ailleurs, lui, il est bien placé pour en parler parce qu'il a été roi à Jérusalem. Il a été roi et il en parle en connaissance de cause. Il sait ce que signifie gouverner un peuple. Et il sait aussi que la sagesse est un atout, un avantage en politique. D'où son propos, verset 13, « Mieux vaut un jeune homme pauvre, mais sage, qu'un roi âgé et insensé qui ne sait plus écouter les conseils. » Arrivé à un certain âge, un souverain doit savoir passer la main, doit préparer sa succession. Et malheureusement, dans la réalité, nous trouvons encore beaucoup de personnes âgées qui se cramponnent à leur poste, sans envisager de préparer la relève, que ce soit des rois, des dirigeants, des chefs d'entreprise, ou encore des responsables d'église. Ils se cramponnent, ils ne veulent pas quitter leur poste, malgré leur âge, malgré peut-être déjà un début de manque de sagesse. Et très souvent, justement, puisqu'ils se cramponnent tant à leur poste, c'est le signe que ces personnes n'entendent plus raison, n'écoutent plus les conseils. Selon le Qohélète, il vaut mieux pour tout le monde qu'une telle personne soit remplacée par quelqu'un qui aura plus de sagesse. Quelqu'un qui sera peut-être plus en phase avec son temps. D'où l'idée de jeunesse ici, un jeune homme. Et de la sagesse, eh bien, c'est bien ce que nous demandons dans nos prières quand nous intercédons pour nos autorités. Lorsque nous prions pour les autorités de notre pays, nous demandons de la sagesse. Nous savons combien c'est important. Oui, nous savons qu'il est préférable d'avoir à la tête du pays ou à la tête de la ville où nous vivons une personne et même une équipe de personnes sages, compétentes, qui savent diriger, qui savent prendre de bonnes décisions. Mais le Qohélète observe que le peuple est prêt à suivre son roi. Regardez les versets 14 à 16. Ce roi, même s'il est sorti de prison, même s'il est né pauvre, et ce qui est dérisoire, c'est qu'une autre génération arrive et déjà le monarque ne plaît plus. Déjà, il est dépassé. Avec Damaris, nous regardons depuis déjà quelques temps une série de Crown qui retrace avec des parties romancées le règne d'Élisabeth II. Alors, je n'ai pas vérifié dans l'histoire tout ce qui s'est dit à l'époque, mais nous voyons quand même à un moment donné des périodes où la couronne a été critiquée. Soit parce qu'elle était en décalage avec le monde moderne, elle était dépassée, démodée. Soit parce que la reine elle-même, ayant atteint un certain âge, a été jugée trop âgée pour gérer les affaires. Oui, le constat que nous faisons, c'est qu'en politique, il y a bien une situation qui est préférable à une autre. Un monarque qui soit peut-être plus jeune et surtout plus sage. Mais ce n'est pas toujours ce qui se passe. Et voilà ce qui est frustrant. Ce n'est pas toujours le cas. Et c'est ce que nous voyons ici. Par son constat, le Qohélète nous montre que la politique même est atteinte par la futilité, par le dérisoire. Et contrairement à la foule qui entoure le nouveau roi ou le nouveau dirigeant, qui est tout enthousiaste nous ne mettons pas tous nos espoirs en un homme ou une femme. Ou plutôt, nous mettons notre espoir en un homme qui est aussi Dieu et qui est aussi roi. Jésus-Christ. Voilà un roi qui ne déçoit pas. Voilà un roi qui règne à travers les générations. Mais humainement parlant, nous sommes prévenus par le Qohélète. Aucune figure politique ne satisfait durablement. Il est inévitable de trouver dans notre existence quelque chose de dérisoire, de frustrant, quelque chose qui gâche la vie. Et ce qui rassemble tous les éléments que nous avons vus jusqu'à maintenant, c'est le fait que cela concerne les relations humaines, ou comme l'ont intitulé les éditeurs de la Bible du Semeur, la vie sociale. Oui, il y a quelque chose de frustrant dans la vie sociale. Ça ne se passe pas comme on aimerait. Et nous avons vu notamment qu'il vaut mieux ne pas être que de voir le mal sur la terre, pour montrer à quel point l'oppression est une injustice qui doit nous scandaliser. Nous avons vu également le cas du travail motivé par la rivalité, le travail sans relâche, auquel il faut préférer une main pleine de repos. Nous avons vu également le cas d'un homme qui travaille seul, et seulement pour lui, ce qui a conduit le Qohélète à démontrer qu'il vaut mieux être à deux que tout seul. Et enfin, nous avons vu le cas de l'instabilité du pouvoir. Aucun dirigeant ne peut satisfaire durablement, même s'il est préférable qu'il soit sage plutôt qu'insensé. Devant de telles considérations, je ne peux que conclure avec Christ. En Christ, nous avons l'espérance qu'il reviendra pour établir toute justice. En Christ, nous trouvons le vrai repos. En Christ, nous ne sommes plus seuls. Nous pouvons œuvrer aux côtés de frères et sœurs. Et en la personne de Christ, nous avons un roi qui satisfait pleinement au fil des générations. Le Seigneur seul répond à nos aspirations, à nos besoins. Lui seul pourra mettre un terme définitif à toutes ces frustrations exprimées par le Qohélète et que nous expérimentons aussi. Mais en attendant ce jour glorieux, alors que nous sommes dans le pas encore, considérons les propos de l'Ecclésiaste dans le texte de ce matin. Pour vivre la vie telle qu'elle est, avec sagesse. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Oui, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ta parole pleine de sagesse, cette sagesse qui vient de toi. Merci parce que tu nous l'as communiquée, qu'elle est parvenue jusqu'à nous, et que ce matin encore, nous pouvons nous rendre compte de tout le réalisme contenu dans ce livre de l'Ecclésiaste. Et combien effectivement il y a de la futilité, de la frustration, de la déception dans le monde dans lequel nous vivons, dans la condition humaine dans laquelle nous nous trouvons. Et au milieu de tout ça, tu nous montres aussi eh bien, qu'il y a des situations qui sont préférables à d'autres. Et cela nous amène à réfléchir. Permets-nous, Seigneur, à partir de tout ce que nous avons entendu, de pouvoir mettre cela en application, que cela change notre manière aussi de voir notre réalité, pour la voir telle que tu la vois. Que lorsque nous voyons de l'oppression, nous puissions être révoltés, scandalisés, que nous ne puissions pas banaliser cela comme si cela était normal dans notre monde. Que lorsqu'il s'agit d'envisager le travail, nous sachions nous reposer. Que lorsqu'il s'agit de nos activités, nous sachions nous arrêter. Parce que tu nous le demandes aussi. Que nous puissions penser aussi à sortir peut-être de notre canevas individualiste pour envisager de pouvoir œuvrer avec d'autres, de travailler avec d'autres, de faire les choses avec d'autres. Parce qu'il vaut mieux être à deux ou à plusieurs que seul. Et dirige-nous aussi, Seigneur, lorsque nous sommes amenés, par exemple, à élire ceux qui nous gouvernent, à pouvoir privilégier ceux qui ont de la sagesse. Et nous te prions aussi, présentement, pour que tu accordes sagesse à ceux qui nous dirigent actuellement. Oui, Seigneur, nous te prions qu'au milieu de toutes ces perspectives, tu nous montres toujours que c'est toi qui réponds à nos aspirations, que c'est toujours toi qui réponds à nos besoins. Que là où nous pouvons vivre la frustration, nous pouvons quand même venir devant toi tel que nous sommes, nous l'avons chanté. Et tu nous accueilles tel que nous sommes. Merci pour cela. Et nous te rendons grâce, Seigneur, encore pour ce temps où tu nous as permis d'être à l'écoute de ta parole. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.